On était pour ce séminaire parce que je voulais problématiser un petit peu et puis en même temps il fallait parler de moi, mais c'est pas forcément le plus intéressant, mais on aime toujours parler de soi, donc je voulais quand même réussir à le faire quelque part. Donc j'ai intitulé ma présentation Espace, population, société, un apport possible de la géographie aux sciences sociales, un titre très large et très ambitieux. J'ai orienté autour d'une question plus simple, qu'est-ce qu'un géographe peut apporter à un laboratoire sociologique? C'est plutôt comme ça que j'ai préparé ma présentation, et pour être tout à fait honnête, c'est carrément qu'est-ce que Sébastien Olivaux pourrait apporter au lab. On est bien d'accord? On est dans des questions d'échelle, hein, du général au particulier, je vous annonce la couleur. Je tiens à remercier d'abord le LAMES de m'avoir accueilli depuis le... le 1er septembre, et puis nous donner l'opportunité aujourd'hui de se présenter, puisque c'est des moments rares finalement dans la vie d'un labo que de pouvoir présenter son travail à l'ensemble des collègues, c'est toujours intéressant, et donc merci à Ariane et Léo d'organiser ce séminaire, de prendre en charge ce séminaire. Alors, avant de commencer, et vous l'avez compris, ma présentation sera volontairement partiale et partielle. Partielle parce que ce sera des positions personnelles qui vont être évoquées. Donc c'est ma position de géographe au sein de la géographie qui va être défendue. Tout de suite, il y a forcément tout un tas de pans qui vont être laissés de côté, même si je peux rapidement y faire allusion. Et l'éclairage de mon point de vue, de ce que la géographie peut apporter généralement aux sciences sociales, à la sociologie en passant comme sciences sociales. J'ai peu travaillé avec des sociologues jusqu'à présent, j'ai beaucoup plus travaillé avec des démographes, il faut être honnête, et avec des anthropologues tout au début. Et puis, partiel, parce que effectivement, on aura une heure pour aborder ces questions-là, donc je m'étais posé la question au début d'insister sur géographie et sociologie en particulier, puis je me suis dit que ça aurait un côté un petit peu artificiel, parce que finalement, c'est pas ce que j'ai fait le plus, et que j'aurais été obligé plutôt de faire une synthèse des travaux des autres, et que ça semblait avoir moins de sens. Je pense que j'espère qu'à la fin de cette présentation, en tout cas, vous saurez comment interagir avec moi, ce qui serait un peu l'objectif. En gros, qu'est-ce que moi je pourrais vous apporter et quelles idées ça peut vous donner. Alors, pour commencer, puisque j'ai quand même fréquenté quelques sociologues, je sais que la première question à laquelle on doit répondre, c'est d'où on parle. Ça m'a été enseigné par un collègue et néanmoins ami sociologue. Et je me suis fait la remarque que cette question du où, elle est intéressante, puisque les sociologues, généralement, la comprennent non pas comme les géographes, mais nous, le où, c'est avant tout un lieu présent dans l'espace, donc c'est un lieu très concret, et c'est ce qui va nous intéresser, là où le sociologue, quand il utilise cette expression, l'utilise en fait de façon plus métaphorique. Je me suis aperçu au passage que les métaphores des géographes avaient été pas mal reprises par les sociologues métaphorisaient, si je peux me permettre ce néologisme, les questions du géographe. On retrouve le champ en sociologie régulièrement, ce qui pour nous a un sens très concret. Si vous me parlez de champ, moi je vois avant tout du blé ou des vaches. Donc ça, ça fait partie des positionnements qui sont importants. Et pareil, je dirais même pire, la notion d'espace, étymologiquement, correspond à un champ de course, et donc elle, dès son origine en latin, a un sens très 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 concret. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ça a pour moi deux conséquences sur lesquelles je voulais revenir. Rappeler que l'abus de métaphore n'éclaircit pas toujours le discours, c'est volontairement un peu provoquant, mais toujours se méfier, et que de fait qu'il émerge régulièrement des incompréhensions entre les disciplines et entre les disciplines des sciences sociales, parce qu'on utilise les mêmes mots mais avec des concepts et avec des sens et des concepts qui peuvent être radicalement différents. Et c'est ce que m'a appris le dialogue entre disciplines depuis 20 ans en fait, dans quelques mois. Et le deuxième truc, c'est que ça fait toujours passer les géographes pour des gens très terre à terre, parce qu'on a un vocabulaire qui, à mon sens, est souvent très concret. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir sur ce point, là où les sociologues restent, vous le savez, les plus nobles des sciences sociales, et où le géographe se retrouve, lui, par contre, généralement, le bouseux de la fée. Ce qui, moi, personnellement, ne me pose pas de soucis, je n'ai pas de rancune. Et donc, pour essayer de voir ce que la géographie pouvait apporter aux sciences sociales, j'ai décidé, alors je suis content, je ne vois pas trop de géographes dans la salle, j'ai décidé de revenir à l'origine et de vous expliquer ce que c'était que la géographie. Sans que ce soit, enfin voilà, un cours magistral, mais je pense que ça me permettra à moi de me positionner dans mon champ disciplinaire et vous de bien comprendre ce qu'on entend en fait par géographie, sortir un petit peu de ce qu'on peut voir au quotidien sous forme de pratique, on va dire. Je fais toujours très attention aux mots que j'utilise. Voilà. Donc, je vous refais un petit retour en arrière. Alors, je pars de très loin, ça fait toujours peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Pour rappeler, alors, le premier géographe, c'est Hérodote, mais celui-là, il est discuté par les historiens aussi. Donc, c'est vrai. Donc, on va dire que puisqu'il a fait des récits de voyage, nous, on considère comme un ancêtre. On a un deuxième ancêtre de ce cours qui est Ératosthène, qui lui était sur la mesure de la circonférence de la Terre. Alors c'est intéressant parce que la géographie de fait, elle se pose dès l'origine, à la fois sur du récit de voyage, c'est pas anecdotique, c'est sur de la littérature, sur les lieux, et à la fois sur de la mesure, donc on va dire, sur la mesure concrète, et du rapport à la Terre en tant qu'objet physique, quoi. Et puis, plus tard, on a donc les premières géographies qui sont proposées par Ptolémée. Donc là, on revient dans ces récits de voyage qui sont agrémentés de cartes généralement. Et puis, le premier, on va dire, grand ouvrage de géographie, et moi, il me semble d'autant plus intéressant qu'on est ici à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, c'est celui du géographe d'origine arabe, Ali Drissi, qui travaille pour le roi de Sicile, Roger, et qui va produire ce qui est resté aujourd'hui sous le nom de Livre de Roger. Et ce Livre de Roger, il est accompagné d'une carte, qui est une carte de la Méditerranée. La carte de la Méditerranée que vous voyez ici, vous faites très attention, en fait, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut la retourner pour la voir correctement. Vous avez le nord en bas et le sud en haut, ce qui est assez rare, donc hop, je vous l'ai remise dans mon sens. Si vous la regardez comme ça, maintenant là, elle est à l'endroit, et là, vous pouvez recommencer à repérer l'Espagne, la France, la Sardaigne qui a pris un petit peu de volume au passage, et on retrouve un petit peu tous ces... ces choses. Alors, c'est intéressant parce que c'est généralement comme ça que le géographe est perçu, hein. C'est par la carte et par la représentation du monde. Et vu que je reviens de vacances et que j'ai fait pas mal de musées, j'en profite. C'est comme ça que le géographe va être perçu, donc depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne. Donc, je vous ai montré Vermeer, je vous montre une autre de Girodet. Donc, encore au 19e siècle, quand on représente le géographe, il est sur une carte ou il est sur un globe. Et même début 20e, je vous rappelle la description qui est faite du géographe par Saint-Exupéry, un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Mais je vous rappelle que dans Petit Prince, on explique bien que le géographe, il ne sort pas de son bureau, il reste et il attend que les explorateurs viennent. Alors, c'est plus vrai au 20e qu'au 19e, dans le sens où au 19e, les géographes et les explorateurs, c'était un peu les mêmes, et ça a été vrai très très longtemps. Tout ça, ça change finalement à la fin du 19e, et seulement à la fin du 19e. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à peu près l'âge de l'institutionnalisation de la sociologie aussi. Donc, on est des disciplines qui apparaissent en même temps. Un petit peu après l'histoire, alors ça, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que la première chaire de géographie en France, c'est Paul Vidal de la Blache, qui va de fait occuper un poids important, et qui est une chaire d'histoire qui est transformée en chaire de géographie. Donc, on a ce boulet au pied depuis l'origine de la discipline. Sachant qu'en parallèle, on a un autre mode de géographe qui s'est développé, qui est celui d'Élisée Reclus, dont je ne parlerai pas, parce que justement, Élisée Reclus, c'est le géographe qui n'est pas rentré dans l'institution en France, qui a même été excommunié. Il n'est pas excommunié, banni, pardon, suite à la Commune. Donc un géographe très engagé, mais qui est aussi un de ceux qui a produit une des pensées majeures de la géographie au 19e siècle, mais qui de fait s'est retrouvé en dehors de l'institution et qui a été redécouvert seulement dans la deuxième moitié du 20e. Alors, Paul Vidal de la Blache, c'est intéressant puisqu'il arrive à l'université en 1875, donc dans le dernier quart du 19e, et de fait c'est lui qui va former tous les géographes derrière. Donc on va avoir en France, et je parlerai bien toujours, vous ferez bien attention même quand je ne précise pas, je parlerai bien toujours de la France parce que les situations ont été différentes. Alors déjà en Allemagne, on a développé ça, une école propre, en Angleterre et puis aux États-Unis. On a en France un espèce de blocage institutionnel qui se fait dès le départ par la présence de Vidal, qui est le gars qui va former tous les autres géographes et qui va entraîner alors à la fois la typicité de l'école française de géographie et en même temps une sorte de sclérose de la discipline jusqu'à ce qu'on se débarrasse de l'héritage. Alors pour le résumé n'est pas de moi, mais ça me convenait très, très bien. La géographie classique, une géographie donc inductive, idiocratique, ce sera son plus gros défaut, analytique, possibiliste, ce sera un deuxième défaut, mais à l'époque c'est normal, et multiscalaire, mais multiscalaire, alors c'est un mot que les géographes aiment bien, au sens de découpage des échelles région par région. C'est-à-dire qu'on va toujours voir les choses comme emboîtées et on ne va pas les voir en interaction. Ça, c'est le petit truc dont il faut se rappeler. Ça doit reposer, cette analyse-là, elle repose, si je ne me trompe pas, sur les travaux de Marie-Claire Robic, qui fait partie des. Donc, la grande épistémologue française de la géographie. Dans le même temps, donc une géographie qui naît à la fin du 19e, donc qui va être très portée sur le rural, ça va être important, et qui va au début envisager la partie humaine de la géographie et la partie physique de la géographie, mais qui va amener petit à petit à une séparation. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que autant au début on mêle bien les deux, et puis en allant vers le milieu du 20e, on va avoir tendance à avoir ces deux disciplines qui vont se spécialiser finalement, et on aura de plus en plus une géographie physique d'un côté et une géographie humaine de l'autre. Sachant que ça fait toujours partie, et encore aujourd'hui, hein, des cursus qu'on fait toujours, de la géophysique et de la géohumaine. Si vous faites une licence, si vous passez par les classes prépa, vous pouvez passer à côté de la géophysique, mais si vous faites une licence, vous faites de la géophysique en plus de la géohumaine. Et ça va se renforcer pareil jusqu'aux années, on va dire 60, qui va être la période, c'est là où je vais sauter directement, la période de la révolution géographique, avec une nouvelle géographie qui va apparaître donc dans l'après-guerre, alors pas l'immédiate après-guerre, en France ça va attendre le milieu des années 60 et le début des années 70. Nouvelle géographie qui va alors, qui est envisagée au départ comme venant d'ailleurs. Ça, c'est un premier point, là, je vais m'excentrer un petit peu. En gros, la géographie française, notamment engluée par certaines formes d'institutions françaises que sont l'agrégation, qui aura eu aussi un côté très sclérosant, parce que de fait, on va reproduire les enseignants qu'on va recruter à la fac dans un même moule. Et ça va vraiment bloquer j'y reviendrai dans quelques slides, ça va vraiment bloquer l'évolution de la discipline, et puis qui va pas réussir à trouver sa place. C'est-à-dire que de plus en plus la géographie va se retrouver un peu comme une discipline carrefour, ce qui est jamais très bon. On commence tout juste à s'en sortir, hein, mais à dire bah voilà, on peut discuter avec les sociologues, avec les historiens, avec les gens de la géophysique, et puis nous on fait un peu la synthèse au milieu, mais la synthèse un petit peu molle sans forcément de corpus théorique derrière. Donc aux États-Unis ça change à partir des années 50, sous l'impulsion d'Edward Ullmann, qui va définir en 54, donc c'est relativement précoce, la géographie comme la science des interactions spatiales. Donc là on change carrément, déjà on fait apparaître le mot espace, qui est un mot complètement absent de la géographie jusque dans les années 60. Faut se rappeler ça. On parle de région, mais on parle ni d'espace ni de territoire. Donc on met l'espace au cœur de la discipline une première fois, et l'espace vraiment vu sous les interactions dans l'espace, donc les interactions spatiales. Alors Ullmann, c'est assez intéressant parce qu'il a été formé à Chicago sans avoir suivi les cours de sociologie de Park et de Burgess, étonnamment, mais a priori c'est quand même pas complètement étanche. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il devient prof à Seattle, à l'université de Washington à Seattle, en 51. Et il arrive là-bas avec quand même une formation qui l'a sensibilisé à la ville. Donc on passe de la géo rurale à la géo urbaine rapidement. Et puis, une volonté de théorisation. Et ça, on peut se dire que peut-être l'ambiance de Chicago malgré tout. Et dans cette... je vous parle de lui parce qu'en fait, à Seattle, il rencontre un autre géographe qui s'appelle Bill Garrison, qui dirige le département de géographie. Et à eux deux, en fait, ils vont former une dizaine de docteurs Alors c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant parce qu'en fait, en l'espace de moins d'une dizaine d'années, ce qui est quand même extrêmement rapide si on y réfléchit, la géographie américaine va passer elle aussi d'un modèle relativement ancien à un modèle radicalement différent où, un, on s'est mis à théoriser, c'est-à-dire à penser le rôle de l'espace, et deux, à quantifier. Et ça se passe ça se passe réellement en moins de 10 ans. En gros, on considère que ça démarre, enfin, vous voyez, il a été recruté en 51 à Seattle. La première thèse de Géo, c'est Berry en 58. Donc en gros, entre 58 et 64, on a une dizaine d'ouvrages majeurs, enfin de thèses majeures, d'acteurs majeurs. Tous les gens que j'ai cités là sont des acteurs majeurs de la géographie américaine. Certains sont encore en activité. Et en gros, en vraiment moins de 10 ans, la discipline va complètement basculer, va basculer dans sa forme contemporaine. Et tous ces gens-là, hein, donc ils ont tous en poste. Ceux qui ne sont pas en poste, c'est ceux qui ont décidé de partir ailleurs. Il n'y en a qu'un. Et tous sont publiés après sur la géographie théorique et quantitative. Donc là, on a une révolution qui se fait dans les années 60. Avec, il faut quand même mentionner deux autres personnes, Peter Agut et David Harvey. David Harvey, c'est quelqu'un qui est très à la mode en ce moment, parce que c'est lui qui est à l'origine de la géographie radicale. Mais cette géographie radicale, en fait, ces deux penseurs sont des gens qui ont participé de la révolution théorique et quantitative en géographie. Ça, c'est pas anecdotique. Il y a William Bunge, qui est marqué au-dessus, qui fait aussi partie des grands penseurs de la géographie radicale. Donc voilà, on a un petit noyau, et ce petit noyau, en fait, il va, pour le coup, trouver des postes partout aux États-Unis. Donc la pensée qui, au départ, est très concentrée à Seattle, elle se diffuse réellement dans toutes les universités. Les gars vont prendre des postes un petit peu partout, et ça va perdurer. Donc, le changement majeur pour la discipline, il est dans cette prise en compte des interactions spatiales et la recherche de théorisation et aussi la recherche de quantification. Ça va être résumé accidentellement par un de ses auteurs, donc par Tobler. Alors je dis accidentellement parce que c'était pas du tout l'objet. Si vous regardez le titre de l'article, ça n'a absolument rien à voir avec la phrase, mais il se trouve que la phrase va rester dans la géographie. Alors, dans la géographie anglo-saxonne, en France, c'est quasiment inconnu, comme la première loi de la géographie. C'est-à-dire qu'on est bien dans cette volonté de théorisation et de trouver des lois, alors, ce que ça peut amener comme critique, mais volonté de trouver des lois. Et c'est Tobler, dans son article de 70, qui concerne complètement autre chose, qui dit, j'invoquerai, en gros, pour lui c'est un raccourci rhétorique dans l'article, plutôt que de se lancer dans une démonstration, il écrit texto, j'invoquerai pour expliquer ça la première loi de la géographie. Tout est en relation, mais les choses plus proches sont plus en relation que les choses éloignées, ce qui permet qui est un beau résumé finalement de l'intention initiale, hein, de ce travail sur les interactions spatiales et leur rôle sur les sociétés. Alors, comment cette géographie-là, cette nouvelle géographie, puisque c'est comme ça qu'elle reste dans l'épistémologie, elle arrive en France. Alors, de façon intéressante, Paul Claval, dont j'ai lu, ce que je trouve un petit peu méchant, mais pas complètement faux, qu'il était plus un passeur qu'un penseur, toujours un peu sévère. Dès les années 60, était en contact avec des chercheurs aux États-Unis. Donc dès les années 60, a commencé à relayer dans les revues françaises quelques articles disant qu'il se passait des choses là-bas qui étaient intéressantes et qu'il fallait suivre. Donc dès les années 60, on sait outre-Atlantique qu'il se passe des choses et que ça commence à bouger, mais chez nous ça bouge pas trop. Le vrai changement, la vraie arrivée de ce mouvement théorique et quantitatif, il est par un géographe qui s'appelle Bernard Marchand. C'est intéressant parce que c'est ici que ça se passe. On a des journées géographiques qui sont organisées à Aix-en-Provence en 70, et on sait que Bernard Marchand y a présenté finalement le premier papier de géographie théorique et quantitative francophone en France. Et puis après, donc lui, parce qu'il était parti en fait en Argentine et qu'il était remonté par les États-Unis pour rentrer en France. Bernard Marchand à l'époque, non, il n'est pas chercheur à Aix, c'est juste les journées. Non. Aix a été le lieu de l'introduction de façon, mais ça n'a pas été le lieu de développement de ce courant-là. Même si ça fait partie des facs qui continuent de promouvoir cette géographie théorique quantitative. En 71, à Aix-en-Provence, on a des journées de formation de l'IRD. Donc c'est re Aix-en-Provence, c'est quand même assez rigolo. Ce sont les premières journées de formation pour des géographes sur les méthodes quantitatives. Donc, il y a un truc sur le lieu d'Aix-en-Provence pour les quantitativistes. Je ne sais pas si les quantitativistes aiment le soleil ou ont fait les bonnes analyses avant pour savoir où se réunir, mais en tout cas, il se passe un truc. Ce qui fait que ça va germer ici. Il y a une sensibilisation du sud-est de la France plus forte que dans d'autres régions en France. J'y reviendrai après sur la structuration de mouvements théoriques et quantitatifs. L'autre gros apport venu d'outre-Atlantique, c'est Jean-Bernard Racine qui, lui, venait de passer 2 ans au Canada et donc ramène dans ses valises aussi tout ce nouveau mode de pensée. Donc tout va se mettre en place dès le début des années 70 en France. Donc on a à peine une dizaine d'années de retard, ce qui n'est pas énorme à l'époque. Vous ne voyez pas si vite que ça. Sachant qu'on avait quand même un terrain en France pour accueillir ça, avec quelques géographes qui s'étaient posé la question auparavant, dont notamment Jean Gottman, qui est peut-être plus connu en socio aujourd'hui qu'en géo, je ne sais pas. Jean Gottman qui, dans les années 50, définit l'espace géographique. Donc ça aussi c'est un nouveau mot, et l'espace géographique c'est un mot typiquement français, c'est-à-dire que les anglo-saxons parlent pas de geographical space, parlent de space, mais cette notion d'espace géographique pour revenir définir ce que c'est que l'espace, c'est-à-dire non plus une étendue abstraite, mais une étendue qui se ramène à ce qu'on va appeler un peu après du territoire, ça reste une invention française et ça reste un marqueur fort. Autrement dit, quand on ramène les États-Unis dans les années 70 ce nouveau courant, il y a déjà en France des gens qui l'avaient pensé quand même à la même époque. Donc c'est toujours intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours ce truc de comment les idées émergent. Le truc de Jean Gottman, typiquement, c'est qu'il n'était pas agrégé et qu'on lui a jamais fait une place en France. Et que Jean Gottman, ça reste un des plus grands géographes mondiaux, puisqu'il est parti à Oxford, qu'il a été accueilli à Princeton. En gros, il a été accueilli à peu près partout, sauf en France. Et c'est pas un hasard, puisqu'il n'était pas agrégé, et qu'en fait, ça lui a certainement fermé les portes de l'institution, et c'était pas un Vidalien, enfin, c'est pas un élève de Vidal. Et on se retrouve comme ça avec de la perte qui n'est pas anecdotique. Et Jean Gottman va être découvert, en fait, par les Français 25 ans après, quoi. Donc, il écrit à l'époque, donc il publie, il est connu, il est reconnu, mais il trouve pas sa place. Et on va réellement redécouvrir ses écrits sur l'organisation de l'espace, des choses très concrètes, plusieurs années plus tard. Dans le même ordre d'idée, on a en 52 Éric Dardel, qui lui aussi, alors vous allez voir que sa définition de l'espace géographique, je dirais plus vidalienne que celle de Jean Gottman, mais qui lui aussi commence à parler d'espace géographique. Et autant Gottman, on peut envisager que c'est un espèce de précurseur de l'aménagement et de la géographie théorique et quantitative, parce qu'il est déjà dans ces questions d'analyse spatiale, autant Éric Dardel est plus envisagé comme le premier géographe qui s'intéresse à la phénoménologie. Et Dardel aussi va rester relativement à l'écart de la géographie française, enfin, il ne va pas être reconnu tout de suite, il va lui falloir 20 ou 25 ans pour être lu et repensé. Et puis un autre précurseur donc, qui vient un petit peu plus tard, mais c'est assez intéressant, c'est Roger Brunet, dont je vais avoir l'occasion de reparler par la suite, qui dans sa thèse d'état, dans le volume complémentaire de sa thèse d'état, pose un volume complémentaire sur les discontinuités spatiales. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est la première fois que dans une thèse d'état de géo en France, on a un discours qui porte spécifiquement sur la méthodologie et qui s'intéresse à l'espace. Donc là on est dans des gens qui sont réellement précurseurs. C'est les années 67 et Roger Brunet c'est celui qui va permettre l'institutionnalisation de tout champ de la géographie théorique et quantitative et son développement puissant dans les années 80. Ceci étant donc, toujours est-il que dans les années 70, enfin dès l'année 70, on cristallise une nouvelle forme de géographie en France, autour notamment de cette notion d'espace géographique, et c'est le que sais-je. C'est pas anecdotique d'ailleurs, hein, c'est sous forme d'un que sais-je que Olivier Dollfus va populariser le terme dès 70. Et derrière tout ça, on va avoir... Alors, on est aussi dans l'après 68, vous l'aurez bien compris. On est sur un système qui est encore largement tenu par des mandarins dans toutes les universités françaises qui sont donc tous des descendants plus ou moins directs de Vidal. Et cette nouvelle géographie, ça va être la manière pour, on va dire, les marginaux du système, faisons des grands mots, de reprendre la main sur la discipline et de proposer autre chose. Alors, ça répond aussi à des attentes de faire autrement, mais c'est aussi une manière de reprendre les choses en main. Et cette nouvelle géographie, elle va être adoptée par les deux grandes espèces de marginaux en France, c'est-à-dire les provinciaux et les femmes. Ce qui est assez intéressant. Je m'excuserai pour les raccourcis sociologiques, mais on se comprend. En 72 naît la revue L'Espace Géographique. Alors, ça aussi c'est intéressant, hein. On avait en France les Annales de Géographie qui étaient la grande revue institutionnelle. L'Espace Géographique naît en 72, c'est aujourd'hui sans aucun géographe contesté la plus grosse revue française. Donc, c'est la revue de référence, à peu près tous les champs de la discipline viennent publier dedans. Et donc on a l'espace qui va devenir le maître mot de la discipline. Et à partir de cette volonté de théorisation et de quantification, on va donc avoir ce mouvement de géographie théorique et quantitative. Vous avez compris que c'est dans celui-là que je continue de m'inscrire moi aujourd'hui. Et puis après, c'est de ce mouvement de nouvelle géographie que va émerger d'autres formes de géographie. Je vous ai noté ici géographie sociale, puisque historiquement c'est elle qui suit. Et puis géographie culturelle qu'on peut relier au mouvement général postmoderne. Mais ce sera moins mon propos. La géographie théorique et quantitative, je vais me recentrer là-dessus. Elle naît, alors, là aussi, d'individus, pris isolément. Donc, je vous ai parlé de Paul Claval, qui, malgré tout, pose les premiers jalons en tant que passeur, de Roger Brunet, qui va être, je vais y revenir, juste une slide pour lui, celui qui va catalyser tout ça, mais aussi de quelques pontes qui vont appuyer les plus jeunes à gauche et à droite. Notamment, il y a un rôle évident de Philippe Pinchemel à Paris 1, qui va soutenir des jeunes maîtres assistantes à l'époque au sein de l'institution, et donc qui va faire bouger les lignes, enfin qui va autoriser les lignes à bouger, on va dire comme ça. Et tout de suite se mettent en place des collectifs. Ça, c'est aussi une des spécificités du mouvement de géographie théorique et quantitative. On va avoir des collectifs apparaître, c'est-à-dire qu'on va plus avoir des chercheurs isolés, on va avoir des gens qui vont se mettre à travailler ensemble, et ça c'est aussi une forme de révolution, avec deux collectifs, un collectif majeur qui est le groupe du Pont. Alors le groupe du Pont parce qu'en fait ses membres se réunissaient en Avignon. Mais quand il a fallu trouver un titre, ils se sont appelés le groupe du Pont, qui a existé jusqu'à l'année dernière. Le groupe s'est dissous l'année dernière, donc ça, vous imaginez la longueur d'existence de ce groupe, et qui a servi à en fait faire se rencontrer les maîtres assistants de province pour échanger. Donc ça a été des lieux d'échange, mais qu'ont organisé aussi le colloque Géopoint, qui continue lui d'exister malgré la dissolution du groupe, et qu'ont participé à ce foisonnement scientifique. Et ça aussi, ça a fait partie, je pense, des forces pour l'installation du mouvement, hein. C'est la multiplication des événements. Avec le colloque européen de géographie théorique et quantitative, donc le CTQG, qui est un événement qui a lieu tous les 2, 3, 4 ans selon un petit peu partout en Europe, mais qui démarre à Strasbourg, et puis le colloque Théocamp qui a lieu depuis plus de 20 ans maintenant à Besançon tous les 2 ans. Donc on a des marqueurs comme ça dans le courant qui nous permettent, je dis nous parce que de fait j'en suis, qui nous permettent de nous réunir et qui permettent à la fois l'échange d'idées mais aussi le renforcement des réseaux et donc la résistance à d'autres formes de géographie qui sont pratiquées avec lesquelles on est évidemment plus ou moins en concurrence. On va dire ça comme ça. En parallèle de ça, donc je vous ai dit la constitution de revue, donc l'espace géographique en 72, qui est une revue d'un nouveau genre. La revue MapMonde en 86, qui est la première revue de géographie à publier en couleur. Alors c'est anecdotique pour un sociologue d'avoir de la couleur. Ça veut dire que nous, tout d'un coup, on a pu se mettre à publier des cartes en couleur. Ce qui évidemment change complètement la donne. Et puis le dernier avatar de ce mouvement, c'est la revue Cybergéo en 96. Je vous rappelle en gros que l'internet public c'est 94. Je ne me trompe pas. 96, on a la première revue en ligne accessible, donc revue ouverte, et en ligne, qui est montée en 96 par Denis Puma. Je reviendrai certainement sur le rôle de Denis Puma dans le mouvement, mais voilà, c'est pas anecdotique. L'espace géographique et MapMonde, c'est deux revues qui sont montées par Roger Brune. Toujours la même. Et des laboratoires, enfin des lieux de recherche, puisque c'est aussi rigolo ça de le voir comme ça, des lieux de recherche qui vont émerger. Alors, le premier, c'est un réseau, Aix-Avignon-Montpellier-Nice. C'est pas un hasard, hein, je veux dire, ça naît. L'introduction, elle a lieu à Aix. Les premiers groupes de travail se réunissent en Avignon. Et donc, on a une UMR, qui est l'UMR que j'ai quittée donc, pour vous rejoindre. L'UMR Espace qui naît dans les années 80, mais qui naît de l'alliance de ces gens qui travaillaient déjà ensemble. Donc Espace comme premier lieu de le réseau Sud-Est comme premier lieu de travail. Paris évidemment parce que par la centralisation française, il fait qu'au bout d'un moment tout finit par se passer à Paris. Et donc aujourd'hui le plus gros labo de géographie théorique et quantitative, c'est sans conteste Géographicité. Le laboratoire Théma à Besançon, qui là est plutôt une anomalie, parce que Besançon c'est quand même une petite ville. Bon, universitairement c'est pas si petit que ça, mais ça reste quand même une petite ville, et on a là un grand centre de géographie théorique et quantitative, et le laboratoire Théma, ça fait partie des quatre gros labos français, quand vous regardez les classements ARS et compagnie, je peux dire c'est des petits. Il y a une vie autour de cet endroit-là qui est assez intéressant. Paul Claval et Bisontin, il n'y a peut-être pas complètement que des hasards. Et puis Strasbourg, et dans une moindre mesure, mais vraiment une moindre mesure, Rouen. Il y a une petite antenne à Rouen, mais Rouen c'est beaucoup moins marqué. Mais de fait, on a une géographie de la géographie en France qui est très intéressante. Les quantitativistes sont tous dans l'est de la France. Ce que j'annonce toujours à mes doctorants, hein, vous avez très peu de chances de rejoindre la côte atlantique. L'ensemble de l'ouest de la France est globalement hermétique à ce mouvement de géographie théorique et quantitative. Je vais pas les traiter de conservateurs, mais en tout cas, on n'a pas réussi à essaimer de ce côté-là du pays. C'est assez rigolo. Donc, je vais quand même rappeler deux personnes qui apportent parler de moi. Roger Brunet, dont je vous dis qu'il était, donc il a fait sa thèse bêta en 67, qui est alors quelqu'un qui a énormément produit, qui est pas foncièrement un quantitativiste, ça c'est quand même assez intéressant, mais qui par contre a beaucoup œuvré pour la théorisation de la discipline. C'est même quelqu'un qui, à mon sens, a freiné le développement de l'aspect quantitatif de la discipline en France, parce que c'est pas les modèles qu'il a choisis, mais qui par contre, par son entrejambe politique, a réussi à obtenir la création d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public en 84, qui s'appelle le GIP Reclus, qui a été dissous une quinzaine d'années après. Et ce GIP Reclus a servi, alors vraiment, enfin, c'est unique dans la discipline, mais à mon avis, c'est unique dans un paquet de disciplines. Il a servi de catalyseur en fait à tout ce qui s'est passé avant. Autrement dit, avec le GIP Reclus, c'est vraiment l'image de on prend tout ce qu'on vient de faire et puis on remet tout ensemble. Et alors, ça a énormément servi le mouvement. C'est-à-dire qu'on a eu un dictionnaire de géographie édité par Brunet, qui est le premier, qui est même le seul. Alors, il s'appelle Dictionnaire critique de géographie. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur la définition des mots, on est aussi sur la remise en perspective dans la discipline, ce qui est une nouveauté et ce qui reste encore une nouveauté 30 ans après. On a une réalisation d'une encyclopédie de géographie, donc on a dans la discipline aujourd'hui un volume comme ça, c'est gros comme un Robert, et qui reprend l'ensemble des champs de la discipline, donc dans une perspective toujours d'ouverture. On n'est pas dans la. On est dans une forme de rejet de la géographie classique, mais ça reste très œcuménique dans les ouvertures. Il y a eu cette intelligence de se dire que cette nouvelle géographie allait finalement transcender les clivages et allait pouvoir s'intéresser aussi bien au rural qu'à l'urbain, qu'à la géographie humaine, qu'à la géographie physique. C'est-à-dire qu'on se place un petit peu au-dessus de la mêlée en disant voilà, nous ce qu'on va changer c'est les méthodes, ce qu'on va changer c'est la volonté de théorisation, le poids de l'espace dans la discipline, mais après on laisse tous les acteurs libres et au contraire on va même aller chercher les acteurs les uns après les autres. À mon sens, le projet le plus intéressant, c'est le c'est la géographie universelle. La géographie universelle, ça se faisait plus parce que ça coûte très cher à faire et puis ça demande beaucoup de ressources, donc ça se faisait plus depuis le début du siècle. Et en fait, Brunet s'est lancé dans une géographie universelle, autrement dit, et il n'y en a pas eu depuis, hein, en 95, on se retrouve avec un certain nombre de volumes de type encyclopédique qui font le point sur tous les pays du monde. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on pourrait dire que ça vient à contre-emploi de cette révolution géographique, mais en fait c'est plutôt malin, c'est qu'on a été chercher les chercheurs spécialistes d'aire culturelle et on les a fait rentrer dans le moule de la nouvelle géographie. C'est-à-dire qu'on a été chercher les spécialistes de l'Afrique, les spécialistes de l'Asie, et puis on leur a dit voilà, on a un volume à faire, on s'occupe des illustrations, donc au passage c'était nous on met la main sur le média cartographique et notamment sur le média schématique, et puis vous rentrez dans un moule qui n'est pas le moule descriptif habituel de la géographie qui marche par aire culturelle, mais qui est bien dans la pensée de la nouvelle géographie. Et on a réussi finalement à mobiliser tous les acteurs de la géographie autour de ça. C'est ce qu'on avait déjà réussi à faire avec la revue L'Espace Géographique, c'est-à-dire aller chercher des gens qui ne sont pas forcément au cœur du mouvement, mais de les ramener vers le mouvement, et on fait la même chose avec les géographies universelles, et on occupe tout le champ. Alors, c'est un travail éditorial monstrueux, hein, qu'a demandé, enfin, voilà, qui nécessitait cette mobilisation d'argent public spécifique. On a aussi toute une série d'Atlas de France qui aujourd'hui restent à mon sens très pertinents. Enfin, ils sont datés sur les faits qu'ils décrivent, mais sur les méthodologies, il n'y a pas grand-chose à en dire, et ça reste toujours une source d'information. Et ces Atlas de France, ils ont travaillé aussi bien sur l'intra-urbain que sur le milieu rural. On a une quinzaine de volumes comme ça qui viennent faire des séries. Et ça a été la grande intelligence de Bonnet, hein, c'est de lancer tous ces mouvements éditoriaux et de les déléguer. C'est-à-dire que lui, il s'est gardé le dictionnaire et l'organisation de l'encyclopédie, mais l'encyclopédie de géographie, c'est une quarantaine d'auteurs. Et sur la géographie universelle, il s'est gardé, si je ne me trompe pas, le monde russe, parce que c'est son domaine de prédilection, il s'est gardé le volume 0 de la géographie universelle qui s'appelle Monde Nouveau, et ça c'est aussi super intéressant. On a dans la géographie universelle tous les pays du monde, enfin, toutes les grandes régions du monde qui sont décrites, mais on a aussi un volume 0 qui décrit le monde, et qui décrit pas le monde dans son aspect concret, mais dans la manière dont les géographes doivent le percevoir aujourd'hui. On dit si c'est une bonne introduction au mouvement de géographie théorique. Voilà. Et dernier point qui fera la transition, on a en 84, donc en même temps que la création du GPRECLU, on a la création d'une équipe à Paris, qui va travailler sur la ville et qui s'appelle Pour l'avancement des recherches sur l'interaction spatiale, qui en initial fait Paris, fondée donc par trois dames. C'est pas anecdotique à l'époque, et Denise Plumin, Thérèse Saint-Julien et Violette Rey. Alors c'est pas anecdotique pour plein de raisons. D'abord ce sont des femmes, et comme je vous l'ai dit, comme je ne voulais pas préciser, la géographie était certainement la discipline la plus en retard en termes de féminisation de son corps de chercheur. Donc c'est pas anecdotique que ces trois femmes arrivent à monter un laboratoire en 84. Bon, elles sont quand même toutes les trois normaliennes, donc l'institution a récupéré le mouvement, ne vous inquiétez pas. Et dont le projet scientifique, hein, c'est vraiment l'avancée des recherches sur l'interaction spatiale avec un leitmotiv, l'espace compte. Donc, pour ne pas faire de cachotterie, hein, Denise Plumin est ma directrice de thèse et je me considère, je pense, comme digne de mentionner son nom quand j'évoque mes travaux. Voilà. Et donc on passe sur donc de l'espace géographique et de la géographie théorique et quantitative, on passe dans les années 80 et surtout 90 à un nouveau vocable qui est celui d'analyse spatiale. Alors c'est intéressant aussi parce qu'en fait on part sur la notion d'analyse, donc c'est un petit côté un petit peu plus sérieux que géographie. On sort un petit peu de la description, on finit par s'en débarrasser et puis on remet l'espace au cœur de la question, et donc on définit l'analyse spatiale comme ensemble de méthodes qui visent à proposer une approche modélisée de l'espace géographique. Donc on est bien toujours sur l'espace géographique, mais on est bien aussi sur la modélisation, et c'est ce qui va être important. Cette question de la modélisation en géographie, elle est vraiment récurrente, et c'est à travers la modélisation qu'on arrive vers la théorisation. C'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe au sein de la discipline, ce qui n'est pas forcément, ce serait une discussion à avoir, je ne sais pas si c'est vraiment le cas en sociologie, si c'est de la même manière que la théorie ne marche pas. Et en se rappelant bien que pour le géographe, on a quand même dans les modèles, trois types de modèles, et on a cette volonté, j'appellerais œcuménique, hein, du mouvement théorique et quantitatif, c'est de dire il n'y a pas de mauvaise modélisation, et c'est pas parce qu'on se revendique quantitativiste, c'est pas parce qu'on va chercher la mesure qu'on va rejeter les autres champs. La première forme de modélisation, elle est littéraire. Et donc le récit est déjà une forme de modélisation. Ça, c'est un premier truc qu'on doit rappeler. Et l'objectif étant, après, de réussir à monter en abstraction, c'est-à-dire de passer du récit au graphique, qui permet déjà un niveau d'abstraction, et donc la communication entre disciplines, c'est pas forcément anecdotique. Et puis si on peut passer au-delà du graphique, monter sur de la modélisation mathématique, qui là propose un langage universel pour les sciences. Mais il n'y a pas un. Évidemment, hein, on cherche toujours le meilleur, donc on cherchera plutôt la formalisation mathématique que la modélisation simplement conceptuelle à travers le discours, mais on ne rejette pas forcément ça. Typiquement, hein, Brunet, c'est quelqu'un qui s'est, alors je dis arrêté, mais c'est pas du tout péjoratif, qui s'est arrêté à la modélisation graphique, qui a toujours laissé de côté la modélisation statistique. Pour plein de raisons, mais toujours est-il que ça a freiné une partie du développement de la discipline. Là où quelqu'un comme Denis Cumin, elle a cherché, au contraire, elle l'a dit très clairement, elle a cherché la mathématisation, notamment pour aller discuter avec les sciences dures. Parce qu'à partir du moment où on est sur des modèles mathématiques, on peut commencer à discuter avec des physiciens. Voilà, mais sans dire que c'est l'aspect... sans lequel il n'y a pas de vie, quoi. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. On va chercher ça parce qu'on sait que ce sera le meilleur moyen de pouvoir tous discuter, mais ça ne dévalorise pas les autres formes de modélisation et ça n'empêche pas d'utiliser d'autres formes de modélisation. Denis Cumin a aussi pas mal travaillé avec des sociologues à l'époque où elle a aussi travaillé avec des chimistes et avec des physiciens. Donc c'est pas inintéressant. Alors. Ça, c'est pour vous replacer un petit peu le contexte. Donc, moi, j'arrive très tard derrière tout ça. Parce que je suis né en 75, donc je suis né après la naissance de l'espace géographique. Je commence à faire de la recherche alors que l'analyse spatiale est déjà un champ relativement implanté. Et donc, je vais revenir rapidement sur mon parcours pour vous présenter ce que je fais. Et puis, comme ça, je serai plus dans les temps. Par où je vais commencer ? Moi, je vais être très personnel, mais en même temps, c'est nécessaire pour expliquer le parcours. J'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue ouest de Paris, et donc ma fac d'affectation, c'était Nanterre. C'est pas anecdotique, parce que de fait, selon l'endroit où on est né, du moins à mon époque, ça déterminait la fac où vous alliez aller. Et donc, je me retrouve à Nanterre. Et Nanterre, c'est une fac en géographie qui a deux grandes orientations, qui a deux et demi orientations. Il reste encore de la géophysique. La géophysique a pas mal perdu à partir des années 60. Elle s'est fait bouffer par la... Donc, les géophysiciens ont voulu durcir leur discours scientifique et ils se sont retrouvés avalés par les géologues. Les physiciens d'Aix ont résisté un peu plus longtemps, mais c'est ce qui est en train de leur arriver. Ils ont perdu leur master sur le dernier quadriennal, réavalé. En fait, ils avaient joué la carte, on va se mettre avec les physiciens, avec les vraies sciences dures. Les sciences dures ont fini par tout avaler. Et aujourd'hui, les géographes physiciens se retrouvent sans master à Aix. Ce qui est arrivé généralement beaucoup plus tôt dans le reste de la France. Donc à Nanterre, moi, quand j'y arrive dans les années 90, enfin, en 94, la géophysique reste là pour nous enseigner en licence, mais la recherche est déjà pas mal tombée. Et on a deux grandes écoles, on a l'école tropicale et une école urbaine, mais une école urbaine marginale, représentée par Guy Burgel notamment. Marginale dans le sens où elle n'a pas réussi à trouver sa place au niveau national. Et donc on est par contre dans le cœur de ce qu'on appelle la géographie tropicale. Alors la géographie tropicale, c'est une géographie un petit peu particulière. On pourrait la décrire comme héritière de la géographie coloniale, mais ce serait pas très sympathique. On est dans une géographie qui est plus complètement vidalienne, qui, pour reprendre les grandes classifications, serait un peu... j'ai pas mis le mot. Structuraliste, mais qui s'avoue pas structuraliste, qui a du mal à s'engager. Donc, on est dans des formes de recherche qui ressemblent un petit peu à ce qui pourrait se faire si on voulait faire du structuralisme en géographie, mais qu'on n'est pas complètement, qui est plus de la géographie vidalienne, qui a développé son propre truc autour d'un personnage qui s'appelle Pierre Gouroux, qui va être le grand penseur de la géographie tropicale. Alors Pierre Gouroux, il a un petit problème, c'est qu'il a encadré que deux doctorants, et donc lui, il n'a pas essaimé beaucoup. Il aurait pu essaimer beaucoup, il a fini au Collège de France, donc c'était quelqu'un qui avait quand même finalement une assise, mais qui a formé que deux docteurs, et donc c'est eux-mêmes qui ont reformé les gens derrière, mais ça a perdu pas mal de temps. Toujours est-il qu'à Nanterre, on est dans cette géographie tropicale. Donc moi, je fais 3 ans d'études où l'objet géographique principal, c'est le bananier. Hein. On avait en première année, en deuxième année, en troisième année, alors une fois à Madagascar, une fois au Brésil, une fois ailleurs, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que vous savez comment on pousse le bananier quand vous avez fini une licence de géo. Je regrette rien, c'est très intéressant. Donc, une géographie au passage, encore très tournée vers l'espace rural, on est quand même dans les années 90, et tournée vers voilà, les pays du Sud et pays en développement. J'ai fait un DEA qui s'appelle pratique. Géographie et pratique du développement dans le tiers-monde. Je pense que les mots-clés, là, vous situez un petit peu le truc. Et dans lequel on aurait pu avoir une formation en géographie théorique et quantitative. On avait en fait à Nanterre déjà un centre de calcul. Donc Nanterre a été plutôt en avance en termes de quantification des sciences sociales dans les années 80. Puis ça s'est perdu. Et moi, sur ma promotion, le prof de Stade Carteau est décédé au milieu de la deuxième année. Donc en fait, moi, j'ai pas eu de formation à Stade Carteau. Digne de ce nom. Donc moi j'arrive en master où je sais qu'il faut aller travailler là où il y a des bananiers et je sais pas ce que c'est, enfin je maîtrise la moyenne, l'écart type pour moi c'est un truc un petit peu compliqué et le coefficient de corrélation j'en ai jamais entendu parler. Donc ça c'est aussi pour rassurer tout le monde, on peut partir de là et aller plus loin en ayant raté sa licence. Donc évidemment je pars sous les tropiques et il se trouve que par hasard je pars en Inde, tout simplement parce qu'il y avait une offre de stage dans un institut français de recherche, donc ne sachant pas quoi faire, je me suis dit que c'était toujours mieux d'être dans le cadre d'un stage plutôt qu'autre chose. On a ce gros avantage en géographie que la recherche n'est pas la recherche n'est jamais considérée comme la sortie sine qua non et l'enseignement ne représentent qu'une part marginale des débouchés professionnels. On sait que en géographe, on pourra de toute façon faire plein d'autres trucs, donc il n'y a pas d'angoisse, on peut faire un peu ce qu'on veut en master, et pour le coup, l'idée du stage, c'est aussi de comprendre les choses comme ça. Donc toujours est-il que moi je me retrouve tropicaliste à partir en Inde. Et alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais Pierre Gouroux a posé cette question que voilà, je trouve malgré tout intéressante. C'est finalement c'est un peu sa définition de la géographie. Pourquoi tant d'hommes ici et sur telle surface? On a bien voilà, c'est typiquement du Gouroux, c'est-à-dire qu'on a des questions qui sont déjà des questions théoriques, mais qui sont pas assumées comme telles et qui sont de fait très remises dans le concret. Alors moi ça me va bien, c'est un peu ma manière de fonctionner. Et c'est pendant mon master que en fait je vais revenir là-dessus, que je vais découvrir qu'on peut effectivement quantifier les choses et mesurer les choses. Et il se trouve que du point de vue de mes biais personnels, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc je m'y suis penché après. Mais au départ j'ai un vrai parcours de géographe tropicaliste, autrement dit, j'aurais dû faire une thèse éventuellement sur les rapports ville-campagne en Inde du Sud. Mais même plutôt carrément sur le développement des cocoteraies dans une vallée en Inde du Sud. Mais il se trouve qu'en arrivant là-bas, j'ai rencontré des démographes. Et voilà, ça a changé le cours de ma vie. Et j'ai rencontré Christophe Guilmoteau en 98. Donc j'ai fait mes 20 ans de collaboration avec Christophe Guilmoteau cette année. Et donc le premier point, c'est Guilmoteau, c'est un démographe qui, à l'époque, c'est quand même assez novateur, s'intéresse déjà aux dimensions spatiales de ces phénomènes. Il a repéré qu'il y a des choses qui ont une géographie et que ça vaut le coup de creuser ça. Et en fait, moi je viens en stage plutôt pour travailler dans les champs sur les changements dans les cocoteraies, enfin le passage des rizières aux cocotiers. Il se trouve qu'après les premiers pas sur le terrain, j'ai bien compris que j'avais des formes d'empathie un peu trop fortes et que c'était vraiment trop douloureux pour moi. Et que Christophe Guilmoteau, à côté, proposait de travailler sur des données, et que moi, ça m'intéressait bien. Et donc c'est à partir de ce moment-là, c'est en Inde, que je découvre véritablement le travail d'analyse spatiale. Et c'est un démographe qui me donne tous les bouquins de référence sur l'analyse spatiale. Et là, je me dis, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est vrai que je vais m'orienter. Ceci étant, dans un contexte particulier, en Inde, à cette époque et encore aujourd'hui, la géographie est une géographie qui est de la géographie physique essentiellement, beaucoup de télédétection, très peu de géo-humaine, et quand c'est de la géo-humaine, c'est vraiment l'étude à l'échelle d'un quartier. Donc moi j'arrive là-dedans avec des envies de faire autre chose qui correspondent pas, un, à ce que les collègues sur place vont trouver, et deux, à ce que les autres étudiants qui viennent faire leur thèse en Inde par la suite font non plus. On est vraiment plutôt dans la géosociale ou de la géoculturelle avec un axe d'entretien, enfin même pas forcément un axe d'ailleurs, avec des entretiens très très quali, très poussés, mais de fait pas d'approche régionale de façon assez intéressante. Donc je me retrouve un petit peu isolé et ça, pour moi, c'est une grande chance. C'est que de fait, si vous voulez lire quelque chose sur ce qui se passe en Inde, vous êtes obligé de lire des sociologues et des anthropologues. Donc en fait, ma nourriture sur mon air culturel, c'est de la socio, c'est de l'entretien. Donc ça va, moi je sais que ça va me changer pas mal. Et puis mes questions en plus, elles sont tournées vers la démographie. Donc je dirais que ça me biaise dans mon positionnement de géographe. Et en même temps, ça va me forcer dès ce premier jour à me réfléchir à qu'est-ce que moi géographe, et c'est vraiment un questionnement qui naît en 98, qu'est-ce que moi géographe, je peux apporter aux autres. Et typiquement, face à quelqu'un comme Jinmoto, c'est qu'est-ce que moi, géographe, je vais pouvoir dire de différent que ce type-là n'a pas déjà dit, alors que lui, ça fait 10 ans qu'il pose sur les questions. Et c'est ce qui va m'amener à travailler cette instruction disciplinaire. Au passage, j'ai eu la chance, par contre, d'être sensibilisé en 98 au Gender Studies, qui en France n'avait pas démarré, et au Subaltern Studies, qui, je pense, reste encore largement inconnu en France aujourd'hui. Donc avoir une vision quand même des sciences sociales, on va dire, assez contemporaine. Alors, je vous passe rapidement ma thèse. Bon, ma thèse, elle reste posée sur les rapports ville-campagne. Ça, c'est thématiquement, rapport ville-campagne, ça reste quand même la formation que j'ai eue à Nanterre, donc il reste cet intérêt. Et sur la question des inégalités, alors je parle de modernisation, je sais que le mot fait débat, on va pas faire débat sur ce mot-là, on va juste dire que c'est une autre manière de parler de développement. Et moi, je vais lier ça, donc ça, c'est, je dirais que le sujet de ma thèse, c'est modernisation villageoise et distance à la ville en Inde du Sud. Texto. Et je décide donc de le traiter de façon quantitative avec pour deux raisons. Un, on a en Inde des données, et on a des données censitaires qui sont de très bonne, enfin, très bonne qualité pour un pays comme l'Inde. Et on a en parallèle le développement de méthodes, donc les systèmes d'information géographique, on a tout le développement méthodologique de l'analyse spatiale qui a été fait. Donc en fait, on se retrouve en position de pouvoir faire, de pouvoir travailler. Et c'est la première thèse de géographie quantitative sur l'Inde, ça c'est sûr. C'est aussi une des premières thèses de géo-quantitative sur le monde, sur un pays du Sud. Parce que généralement, le problème des pays du Sud, c'est justement d'avoir accès aux données. Donc très vite, on se retire de la mesure, puisque de toute façon, on n'a pas de données de qualité. Donc moi, je me retrouve dans ce positionnement. Alors, je vous montre rapidement, parce qu'il faut quand même que je vous montre des cartes, sinon après, on va croire que j'en fais pas. Voilà, ça c'est typiquement le résultat, enfin, un des résultats du travail, hein, c'est une cartographie des inégalités de développement ou de modernisation, comme vous voulez, au Tamil Nadu, avec une approche un petit peu particulière. Je vais vous montrer des images, c'est un petit peu plus joli comme ça. J'ai quand même fait un petit peu de terrain, parce que c'est quand même sympa le terrain, pas gâcher son plaisir, pas rester devant l'ordinateur toute la journée. Une de mes idées, c'était de prendre toutes les données sociales qu'on avait dans le recensement, pour en faire un indice, avec l'idée qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a plus d'éléments de sociologie pour expliquer nos indicateurs, puisque tous nos indicateurs sont des indicateurs sociaux, on ne peut pas aller chercher d'autres facteurs qui soient de type social. Et donc de rentrer dans une modélisation qui va faire jouer un élément primordial, qui est celui de la distance à la ville. L'idée de base, c'est de dire, plus on est éloigné des villes, et moins on est développé. Alors c'est trivial, sauf que, en fait, quand vous dites ça en Inde, à l'époque, les gens vous regardent en vous disant « mais non, mais non, mais non ». En fait, les campagnes sont aussi développées que les villes, ce qui est depuis montré relativement faux. Donc on a soit les remarques de « c'est faux », soit les remarques de « bah oui ». Sauf que le « bah oui », moi, c'est un truc qui me gêne toujours, c'est-à-dire que « bah oui, tant que c'est pas mesuré, c'est pas démontré ». Donc je suis parti là-dessus. Donc à quoi ça peut ressembler un résultat d'analyse, je vous en fais juste là. C'est des gros nuages de points, on a 16 000 villages qui sont analysés. Il n'y a pas 16 000 points parce qu'on n'arrive pas à tous les cartographier, mais il y a 16 000 villages qui sont analysés en fonction de leur distance à la ville. Alors, mis en synthèse, ça donne des choses comme ça. Voilà, typiquement, ce que peut apporter un géographe là-dessus, hein, c'est de vous montrer comment le niveau de développement diminue en fonction de la distance à la ville pour l'ensemble des villages du Kalimantan, et de vous montrer sur la lecture de la courbe que vous avez une rupture de courbe aux alentours de 5-6 km, qui n'est pas une rupture anecdotique. Autrement dit, le niveau de développement descend très vite, et puis après descend de façon plus régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les interactions avec la ville sont très fortes, mais décroissent très vite dans le premier kilomètre, et puis après décroissent de façon plus régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier kilomètre coûte beaucoup plus cher à franchir que le passage du 8e ou 9e kilomètre. Pour faire très, très bref. Et puis, ça finit par un modèle graphique. Donc, il y a un modèle mathématique, une jolie petite équation type économétrique dans la thèse, mais il y a aussi avant tout un modèle graphique qui vient travailler sur ces différences d'échelles. Et là, contrairement à la géographie vidalienne, on n'empile pas les échelles, on dit bien que toutes ces échelles sont en interaction. C'est-à-dire que le développement ne peut être compris qu'en mettant en interaction ces trois niveaux, le niveau local, c'est-à-dire les capacités on va dire locales de développement, mis en relation avec le voisinage, c'est-à-dire la distance à la ville, et mis en relation, c'est l'innovation méthodologique de la thèse, avec l'appartenance à une région plutôt qu'à une autre, en utilisant donc des certains types de méthodes. Donc voilà, suite à ça, je suis recruté à Aix-en-Provence, donc moi ça me fait très plaisir, parce que j'arrive dans un gros laboratoire de... Je sors du plus gros laboratoire de géographie théorique et quantitative, et puis j'arrive dans le laboratoire historique de géographie théorique et quantitative, donc moi c'est le bonheur. Et je rencontre en 2005 Jean-Luc Bonnefoy qui est à l'époque le géographe le plus en avance sur l'introduction de la pensée complexe en géographie, et notamment sa modélisation avec des systèmes multi-agents. On commence à discuter, et là c'est assez rigolo parce que donc on a une époque où la géographie théorique et quantitative représente un camp de l'échiquier sur la géographie, mais on a un échiquier avec plein de camps. Mais on a donc la géosociale en face, la géoculturelle, on a toujours des géophysiciens, et donc on se regarde tous un petit peu en se demandant qui fait quoi. Et donc a priori Jean-Luc et moi on est du même bord, on est de la même école, et ça a été vraiment fondateur pour moi, parce qu'à force de discuter, je me suis aperçu que finalement c'est nous qui étions les plus opposés en termes de pratique, puisque Jean-Luc, lui, il était sur une modélisation à partir des individus. Donc pour lui, ce qu'on observait, et ça c'est assez intéressant, ce qu'on observait en termes de phénomènes spatialisés, c'était le résultat de l'émergence de décisions individuelles et d'interactions individuelles. Point avec lequel je suis d'accord, hein. Et donc lui travaillait justement sur comment les individus, dans leur liberté, créaient des structures qui étaient, alors, évidemment des structures sociales, mais qui avaient aussi des formes spatiales. Donc on est vraiment on entre par un bout du problème. Et de l'autre côté, je reprends les termes de son HDR, je faisais partie de ceux qui font grand cas de la spatialisation des phénomènes, de leur autocorrélation spatiale, donc c'est exactement ce que vous pouvez dire de moi, et qui regardait ce qu'il a appelé les paquets d'humains, discours assez dur, il disait, voilà, vous regardez les paquets d'humains et les bouts d'espace. C'était ces mots pour décrire la manière dont moi j'abordais les choses. Et effectivement, moi j'aborde les choses complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que je pars pas de l'individu pour regarder comment ces individus font émerger des structures qui sont sociales et spatiales. Je regarde plutôt les structures spatiales existantes pour essayer de définir comment ces structures spatiales vont contraindre les individus. Donc on est vraiment, je dirais d'un point de vue épistémologique, complètement à l'opposé. Ce qui ne nous empêche pas de partager exactement le même champ de la discipline et d'avoir cette même recherche de théorisation et cette même recherche d'avancée méthodologique. Donc c'est pendant ces 5 années, donc entre 2005 et on va dire 2009, que moi je vais être amené à me repositionner. Donc je m'étais très bien positionné en tant que géographe par rapport aux autres disciplines. Ça faisait 7-8 ans que je travaillais avec des démographes, donc je savais ce que c'était qu'un géographe, je pouvais l'expliquer, je pouvais en tout cas expliquer quel était notre rapport et nos spécificités, puis je me retrouvais confronté tout d'un coup à quelqu'un qui me disait « Ouais, mais en fait, on peut aussi faire les choses complètement à l'envers. » Donc ça m'a amené à me reposer quelques questions. Alors j'ai joué un petit peu sur ces modélisations individu-centrées, ça a été le... Puisqu'il est là, ça a été le... le master Indio-Han, justement de regarder comment dans des modèles qui partent de l'individu, on arrive à, en contraignant les individus dans leur spatialité, à recréer des structures spatiales. Donc ça, c'était une expérience assez rigolote, mais ça a été une parenthèse, on va dire. On a joué un petit peu avec ça, puis après on est reparti sur les fondamentaux, les contraintes de l'espace et les structures spatiales. Et moi, c'est comme ça que je redéfinis la géographie. En disant, voilà, la géographie, pour moi, c'est la science qui s'intéresse à la dimension spatiale des phénomènes. Au passage, ce genre de définition, ça permet de remettre géographie humaine et géographie physique dans le même panier. En fait, on peut partager des méthodes et on peut partager même un discours sur la manière dont se construisent les choses. Après, les contraintes sur les sociétés humaines ne sont pas les mêmes contraintes que sur l'aspect physique de la Terre, mais on est quand même sur des idées de contraintes des systèmes qu'on étudie. Ça va nous permettre. Ça va nous permettre, ouais, de. Pour moi, c'est important. Ça permet de sortir de l'espace comme un support des sociétés pour devenir un acteur social à part entière. C'est-à-dire un élément. Alors peut-être le mot d'acteur n'est pas le bon terme, mais un élément contraignant des sociétés. Et c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que je reproche à la géosociale. Hein, la géosociale, elle a pris le parti de dire que finalement l'espace était le support des sociétés et que ce qu'on lisait dans l'espace, ce qu'on lit dans la cartographie, ça n'est que la transcription de l'organisation des groupes sociaux. Moi, je pense que fondamentalement, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que si c'est que ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin de géographes, on a juste besoin de cartographes qui travaillent pour les sociologues. Il me semble que. Je suis géographe, j'ai pas envie de s'aborder le navire, j'ai envie de dire, nous on a peut-être autre chose à dire que de dire que les sociétés sont aussi contraintes par leur dimension spatiale. Et que la distance, ça reste comme le temps des choses qui contraignent les comportements sociaux, quoi qu'on en dise. Donc voilà, sans dire que c'est l'élément essentiel, mais de dire qu'il y a aussi cet angle-là qui doit être pris en compte. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cette idée de contrainte, et finalement je me suis installé dans cette épistémologie parce que c'est très confortable, et puis surtout ça me permet moi aussi de repenser les autres disciplines sous cet angle-là, sans dire, hein, encore une fois, que c'est l'épistémologie que tout le monde devrait adopter. Hein. Je vous explique juste comment moi je conçois les choses et comment quand on va rentrer en dialogue, ça va se poser. Et si on pose ça comme la contrainte, finalement, comme manière d'entrer dans les sciences sociales, ça fait que les historiens seraient ceux qui étudient la contrainte temporelle sur les sociétés, et ça permettrait peut-être de faire un petit effort de théorisation, mais ça c'est juste pour les historiens. Les sociologues n'ont pas de problème là-dessus, hein. Je pense que la théorisation de la contrainte du groupe sur les individus, elle a été faite largement faite, mais ça permet bien d'y rentrer. Et sur l'anthropologie, on peut toujours dire que c'est les contraintes de représentation qui modèlent les individus. Ça, et puis sur la démographie, ça permet de dire que l'ensemble de nos sociétés, et ça c'est pas, ça me semble intéressant, sont quand même dépendantes des structures, des structures de population. Autrement dit que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain, c'est directement dépendant des structures de population, à commencer par les structures par âge. Et que ça, c'est des choses qui sont souvent passées sous silence. On a tendance à pas beaucoup regarder les structures par âge. Or, les structures par âge, elles sont très contraignantes dans l'ensemble des sociétés. Donc voilà, ça vous montre la manière dont moi j'envisage les choses, et ça me permet aujourd'hui de dire que oui, je suis aussi maintenant mi-géographe, mi-démographe, parce que j'essaye d'intégrer en permanence ces deux contraintes, et que je suis pas sociologue parce que, j'ai pas forcément l'ensemble des méthodes et outils qui me permettraient de l'être, et puis parce que intégrer une dimension de contraintes supplémentaires, c'est toujours ça vient rentrer forcément à certains moments en contradiction, et en tout cas c'est un effort supplémentaire qui est très difficile à faire. Donc et c'est ce qui m'intéresse en venant ici, c'est justement à essayer d'être plus systématique dans mes travaux sur l'intégration de cette dimension particulière. Voilà, donc concrètement. Donc là, on est encore dans des choses très générales. Je vais juste essayer de vous montrer concrètement comment ça s'est traduit. Ouais, là, maintenant, ça va être des images, ça va être plus sympa. Léo a déjà fait le grand tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, Voilà, au-delà du discours global, théorique, qui est aujourd'hui mon positionnement réflexif par rapport à mon parcours, ça s'est construit avant tout sur des opérations concrètes, on va dire, qu'on a eu comme premier terrain l'Inde. Donc, depuis 98, j'ai donné mon dernier cours sur l'Inde cette année, et je fais ma dernière communication en colloque sur l'Inde cette année, et je crains que malheureusement je n'en fasse plus à l'avenir, ou alors vraiment de façon très très marginale. Pratiquement 20 ans sur l'Inde. J'ai travaillé depuis, je ne dis pas de bêtises, 2008, ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur le Sénégal, alors sur Dakar essentiellement, c'est un bien gros mot de dire le Sénégal, sur l'intra-urbain, et puis donc depuis 2010, je vais y revenir rapidement à la fin. Je me suis recentré sur la Méditerranée, puisque la pression institutionnelle à Aix-Marseille est quand même très forte pour ne pas travailler sur l'Inde et travailler plutôt sur la Méditerranée. Non, non, il n'y a vraiment aucun crédit ici, on est tout seul.
Dans le prochain,
ça fait 12 ans et...
Non, mais c'est en train de changer. La Méditerranée est...
La Méditerranée dans le monde.
Ouais. Ça sera ça. Ça sera une dimension...
Ah bon, en plus, c'est beaucoup plus... Enfin...
La carte retournée, ça va aller.
On voit la Chine hein, sur la carte d'Alibaïti. Donc juste pour revenir, hein, mes premiers travaux, ma première publique pour le coup, ils ont porté sur la baisse de la fécondité analysée à des niveaux très fins. Donc on a fait une cartographie à l'échelle villageoise. Ça pose déjà plein de questions d'estimer la fécondité avec des données censitaires par village. Mais des choses très intéressantes dans des équipes dès le départ pluridisciplinaires. Hein. J'étais un des rares géographes au milieu des démographes. Il y avait un ou deux sociologues qui devaient se balader aussi. On permet de refaire, ça c'est les quatre états de l'Inde du Sud qui permettent de refaire une lecture de la baisse de la fécondité, qu'on voyait plutôt venir des côtes et puis qui finalement a son cœur au milieu des terres, donc ça c'était un petit peu intéressant. J'ai travaillé, alors des choses qui vont peut-être, enfin qui parlent un petit peu plus, sur les déséquilibres de sexe ratio en Inde, où on a produit avec Christophe les premières cartes à ces échelles relativement fines, on a même fait des cartes encore plus fines sur l'ensemble du territoire. Donc des choses qu'on a essayé de modéliser, qui est plus le cœur de métier de Christophe Guimoto, hein, mais donc je l'ai accompagné sur tous ces aspects géographiques, et là vous voyez instinctivement a priori que quand vous avez des formes spatiales comme ça se modélise très très bien, c'est du caviar pour les géographes. Et pour le coup c'est assez intéressant, puisque une fois qu'on a mis en œuvre toutes les explications sociologiques, économiques, culturelles, et bien il se trouve que même derrière tous ces modèles-là, il reste toujours une empreinte géographique. Autrement dit, l'espace continue de compter, même quand on a épuisé les autres sorts, et ça, c'était pas inintéressant. Donc voilà, on a fait aussi la même chose. Donc, pardon. Si vous regardez tout en bas...
Excuse-moi, c'est quoi la discrimination sociologique?
Ah, pardon, c'est les différentiels de sexe ratio. Alors là, c'est sur les 0-6 ans, mais en gros, c'est autour de la naissance et dans la fin de rencontre. En Inde, on a. Donc normalement, à la naissance, on a 105 filles, 105 garçons pour 100 filles. Oui, on a 105 garçons pour 100 filles à l'état naturel, car a priori, dans toutes les sociétés, c'est un espèce d'universel biologique, on est à 105 garçons pour 100 filles à peu près. 104, 106, 104, 107. En Inde, on est, alors je ne dis pas de bêtises, on est au-dessus de 110, donc on n'est plus dans l'anecdotique, et dans certaines régions, on est au-dessus de 150. Autrement dit, ça veut dire que dans certains coins, il manque entre un quart et un tiers des filles à la naissance. Et ça, c'est. Alors, au début, c'est de l'infanticide, et puis très rapidement, à partir des années 90, quand ça prend vraiment de l'ampleur, c'est de l'avortement sexo-sélectif. Donc en gros, on connaît avant la naissance quel sera le sexe du bébé. Si c'est une fille, on aborde. Alors, là aussi, c'est intéressant parce que on a les déterminants, on a un certain nombre de déterminants. Ça se propage pas partout. On voit bien les points de résistance. Il y a une opposition très nette entre le nord-ouest et le sud et l'est. Donc il y a pas mal de trucs intéressants. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut pas le comprendre si on voit que du côté des hauts. On peut pas le comprendre que si on voit que du côté des mots. Et là, la démographie, par exemple, on montre très bien que sur les premières naissances, il n'y a quasiment aucune discrimination. Et que les discriminations sont plus fortes sur les deuxièmes et les troisièmes naissances. Et d'autant plus fortes que les premières naissances sont, évidemment, des filles. En gros, si vous avez un garçon à la première naissance, il n'y a pas de discrimination à la deuxième naissance. Si vous avez une fille à la première naissance, la discrimination, c'est qu'on est déjà à 150% à la deuxième. Et on monte à 180, 180 garçons pour 100 filles à la troisième naissance, si les deux premiers sont des filles. Donc, il y a bien une organisation. Là, il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est un des gros apports de la démo, c'est de rentrer dans cette finesse-là de découpage et de compréhension du phénomène. Et en même temps, l'apport de la géo, c'est bien de dire que ça ne se passe pas partout. Et donc, il y a des explications culturelles, évidemment, mais pas que. Et notamment, finalement, un des éléments d'explication, c'est de dire que quand la pratique se fait quelque part, elle s'autorise à côté. Autrement dit, il y a une espèce d'exemple qui se passe, et ça, on est bien dans l'interaction spatiale. Puisque mon voisin fait, alors je vais le faire. Donc voilà, donc on a travaillé. Ouais, alors je vais vous remontrer cette carte, parce que dans le sud de l'Inde, il se trouve que dans le sud de l'Inde, vous voyez un petit point rouge là. Vous avez trois districts dans le sud de l'Inde. On se met à faire n'importe quoi comme dans le nord, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc on a été retravaillé, nous, juste sur ces trois districts. Voilà, on a montré comment, dans les années 60, on n'a quasiment pas de discrimination. En gros, là, on est sur des couleurs qui sont à peu près normales. Et puis, avec le temps, on a une diffusion. Et une diffusion qui se fait dans des endroits qui ne sont pas anecdotiques. Donc là, ça permet aussi de réinterroger le phénomène. C'est-à-dire de se dire, c'est dans le nord un phénomène essentiellement urbain. Ici, ça tombe en milieu rural. Mais ça tombe en milieu rural, dans un milieu rural entouré de villes, et dans un milieu rural plutôt développé. Donc là, ça a permis de re-questionner le truc aussi, c'est-à-dire que ça apparaît dans des groupes sociaux qui sont des groupes sociaux qui ne sont pas défavorisés, mais qui sont par contre pas urbains, mais qui ont accès à l'urbanité, je dirais, en termes de contexte. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc sur ces questions de population, on va forcément toujours beaucoup plus large. Je vais passer très rapidement sur ce qu'on a pu faire à Dakar, mais un des enjeux à Dakar, c'était de montrer que justement sur le paludisme, puisque c'est ce qu'on a travaillé sur le paludisme intra-urbain, au-delà des déterminants spatiaux, qui est la grande entrée des biologistes, de dire là où il y a du risque naturel lié au palud, vous aurez du palud. Nous, c'était de dire, attendez, en fait, il y a un truc qui est plus important que, enfin, au moins aussi important que l'environnement, c'est les conditions sociales, et donc de mélanger les deux. Mais de mélanger les deux dans un contexte spatial, en disant voilà, pour qu'on ait des taux de palud plus importants en milieu urbain, il faut à la fois qu'il y ait du risque, parce que si vous n'avez pas de moustiques, vous n'avez pas de palud, ça on le sait en Suède, mais que le fait qu'il y ait des moustiques avec du palud, ça ne suffit pas, il faut en plus être pauvre. Mais qu'être pauvre dans un environnement qui ne craint pas, c'est pas grave non plus. Donc voilà, donc c'était un peu l'apport des géographes. C'était un gros programme pluridisciplinaire, hein. On avait des sciences sociales et puis des gens, des entomologues, etc. Et donc ça a permis de travailler là-dessus. Et puis, dernier point quand même, parce que je veux finir là-dessus. 2010, finalement, j'en aurais pas beaucoup parlé, mais on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. J'ai rencontré Isabelle en 2005. J'étais pas encore arrivé ici. J'ai rencontré Isabelle dans le colloque international de démographie, présenté par Christophe Guimoto, qui m'a dit voilà, c'est pas ta collègue démographe à Aix. Et les démographes à Aix, vous savez, sont pas hyper nombreux, donc ça a accroché tout de suite. On a discuté un petit peu, on n'a pas pu travailler ensemble, et puis au bout d'un moment, Isabelle m'a dit qu'elle montait un observatoire démographique pour la Méditerranée. Mais je me suis dit que finalement j'avais le choix entre continuer de travailler sur l'Inde avec des gens qui étaient à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, et que c'était quand même très compliqué, et que sur place j'avais pas grand chose à échanger, ou me lancer dans un nouveau terrain qui était quand même très fortement poussé par l'institution, finalement plus accessible, que moi j'aime bien aussi changer de lieu, c'était sympa, et puis que j'avais quelqu'un avec qui travailler qui avait l'air relativement ouvert, et qui pour le coup...
Il n'a pas parlé de Daniel
Courgeot. J'allais le faire. Qui, pour le coup, a fait sa thèse sous la direction de Daniel Courgeot, qui est certainement le démographe le plus géographique. Daniel Courgeot. Voilà, en fait, on avait des atomes crochus sans le savoir. Voilà, j'allais venir là-dessus. Il y avait Denis donc, dans le jury de thèse d'Isabelle, et Denis Plumin et Daniel Courgeot avaient aussi travaillé ensemble. Donc, finalement, que leurs enfants se remettent à travailler ensemble, c'était dans l'ordre des choses, et donc on a monté cet observatoire démographique de la Méditerranée. À notre tour, on a eu un premier enfant. Puisque Thierry est là. Et ça donne des choses un petit peu intéressantes, parce que là, de fait, ce qui est très intéressant dans la collaboration avec Isabelle, c'est qu'au départ, Isabelle, elle est vraiment pas géographe. Et que
même Denise l'a dit dans mon rapport de thèse.
Voilà.
Je faisais de la géographie à la papa et j'ai progressé.
Et de fait, il s'est instauré un vrai dialogue. Et par contre, Isabelle, en termes de démographie, est certainement ce qu'on fait de plus
impliquant,
strict, rigoureux. Et donc, de fait, ça nous a amené à aller un petit peu plus loin et puis à se poser la question de comment on pouvait produire ensemble. Et là, produire ensemble, c'était un petit peu plus compliqué. Et je vous présente ce résultat-là parce que c'est pour moi, ça reste pour l'instant le truc le plus, d'abord le plus rigolo qu'on ait fait. Et puis, c'est vraiment la synthèse de ce qu'on a fait. En fait, on a eu une discussion sur comment cartographier des structures par âge. Les structures par âge, je vous rappelle que les démographes les représentent sous forme de diagrammes qu'on appelle les pyramides des âges. Je vous rappelle, hein, les plus jeunes en bas, les plus vieux en haut, et puis les effectifs comme ça. Or ça, c'est assez compliqué puisque c'est déjà une représentation par couche. Donc comment on fait d'habitude pour cartographier ça? On va cartographier les 0,5 ans, puis les 5-10 ans, et puis on va vous sortir comme ça 20 cartes par tranche d'âge de 5 ou autre. Là, vous les mettez les unes à côté des autres comme vous voulez, mais il manquait un truc. Et c'est en discutant qu'on s'est dit, mais en fait, après tout, ce diagramme-là n'est qu'une forme, et qu'une forme, ça se modélise, et qu'après, ça permet de ranger les formes dans des boîtes, donc de faire des classifications, et si on reprojette ces classifications dans l'espace, ça va nous permettre de faire des cartes. Et là, c'est quand même super rigolo, parce que de fait, la cartographie qui vous est présentée, vous arrivez déjà à lire des choses, et je vais vous aider à en lire un petit peu plus. Les territoires, ils pourraient tous avoir toutes les couleurs un petit peu partout. Et on a bien des structures qui se dégagent. Et ces structures, elles ne sont pas voulues au départ, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une classification qui, elle, est complètement aveugle à l'espace. Or, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une Italie du Nord et du Sud bien coupée en deux. Ça, c'est des choses qu'on savait un petit peu, mais là, qui sont bien montrées. On retrouve un Portugal, pour ceux qui connaissent un petit peu le Portugal, qui est certainement le pays démographiquement le plus éclaté. On retrouve, enfin, sur une petite surface finalement et une population pas si grande, quasiment toutes les catégories de notre classification. On retrouve aux frontières de la France un effet frontière, et ça c'est quand même intéressant, et moi c'est là-dessus que je viens travailler, enfin c'est ce qui m'intéresse dans l'Observatoire démographique aujourd'hui, c'est de travailler sur ces questions de frontières. Parce qu'en fait, quand vous regardez la France, vous avez un effet frontière, quand vous regardez l'Espagne et le Portugal, vous n'avez aucun effet frontière, quand vous regardez l'Italie, ben, vous retrouvez des choses qui ressemblent à l'Espagne ou au Portugal, et pourtant ils sont de l'autre côté, et là on est d'accord, il n'y a pas d'interaction. Et donc en fait on s'aperçoit que on a dans la lecture spatiale des phénomènes des nouveaux questionnements qui vont émerger. Et on va pouvoir mettre bien en exergue des choses qui sont dites par les démographes, hein, que le régime démographique français est un régime démographique particulier, sauf que, un, il n'est pas uniforme, on a un nord et un sud aussi en France, en plus d'avoir des métropoles, mais qu'en plus, il est vraiment très typique, puisqu'en fait, on a une catégorie, le bleu clair de la France, qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, dans les quatre pays étudiés. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille, et c'est tout l'intérêt de l'Observatoire démographique, hein, c'est de travailler non plus à l'échelle des États, mais à des échelles infranationales, enfin, des niveaux infranationaux, mais à des échelles internationales. Donc de ne pas essayer de travailler sur les pays, parce que ça, on a des spécialistes qui le font partout, mais bien de travailler sur des comparaisons internationales à des niveaux infranationaux pour mettre en évidence les effets de continuité et les effets de discontinuité. Donc on est dans le plus. Alors je ne vous parle pas de la revue qui est le débouché logique de tout ce travail, qui est une revue qui s'appelle Revue d'études des populations, parce qu'elle réunit géographes et démographes dès le départ. C'est une revue très quantique qui reste ouverte, elle n'est pas disciplinairement inscrite, hein, on accueillera toutes les disciplines, mais clairement quantitative, hein, des géographes quantitatifs et des démographes de la branche plus stricte qui sont présents dedans. Donc voilà, c'est un projet, l'idée est simple, hein, c'est la copie de Cybergéo en France pour la démographie. On a un petit peu de retard, on a 22 ans de retard, donc c'est publication en flux continu, donc les articles sont publiés au fur et à mesure, on travaille plus sous forme de numéros, pas de publication thématique, l'idée étant qu'on a la démographie en France qui est pas mal prostée par l'INED, mais qu'il y a des démographes dans toutes les universités et qui en fait ont beaucoup de mal à trouver des supports démographiques pour publier. Donc quand on est sur des numéros thématiques, bah, si vous n'êtes pas dans la thématique, c'est perdu, et puis quand on est sur des numéros de type population, la pression est tellement forte que typiquement les doctorants publient très peu. Et il y a un vrai retard des doctorants en démographie en France sur la publication, et la géo de la population a aussi des petits soucis de reconnaissance, donc on a décidé de monter ça, donc c'est Isabelle et moi localement, c'est les démographes de Strasbourg, et puis en fait une vingtaine d'institutions en France, un ou deux de l'INED seulement, mais donc essayer faire un truc un petit peu œcuménique dans un champ que je vais appeler géodémo. En conclusion, voilà, vous y êtes enfin. Positive, hein, évidemment. Le géographe a beaucoup apporté sur la recherche sur la population grâce à une approche centrée sur l'espace, mais j'aurais pu enlever sur la population. avec une première question qui est celle de la localisation. Je ne vais pas redétailler, mais ça c'est le premier point d'entrée. Où sont les choses? Une deuxième question sur le changement dans le temps, donc comment les choses se diffusent. Et donc là, on parle bien de diffusion spatiale. Hein. Et puis le dernier niveau qui est celui du questionnement plus théorique, hein, de celui du rôle des interactions spatiales dans ces changements. Si vous deviez retenir trois mots à part espace géographique, hein, ce serait localisation, diffusion spatiale et interaction spatiale. Par ailleurs, c'est pas négligeable la géographie, on en a déjà discuté comme ça, plus ou moins en aparté à quelques outils particuliers. Pardon, j'ai été trop vite. Donc la localisation, la question du où, mais du où physique. Donc la question du changement dans le temps, c'est-à-dire comment enfin dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire comment le changement se diffuse et comment le changement se diffuse dans l'espace. Où là, il y a évidemment des choses qui vont. Enfin, de toute façon, dans tous ces questionnements-là, on s'y retrouve tous. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi les questionnements de toutes les sciences sociales. Nous, notre entrée, elle est juste de rappeler sans arrêt que l'espace compte, quoi. Donc de dire que le « où » il n'est pas anecdotique, les choses n'arrivent pas dans un endroit par hasard, que quand on est sur des choses qui changent dans le temps, on a généralement des effets de diffusion qui peuvent être soit des diffusions spatiales, soit de la diffusion hiérarchique, mais qu'on a bien des facteurs qui sont géographiques derrière et que nous, on a les outils pour le modéliser et que derrière, on va dire qu'une partie de l'outillage théorique qu'on développe, c'est celui de dire qu'il y a des interactions spatiales entre les individus et que c'est ces interactions spatiales qui amènent le changement. Et encore une fois, hein, pas comme porte unique, hein, mais comme une des portes, une des facettes du monde social. Et par ailleurs, donc, on a développé un certain nombre d'outils, des outils techniques, évidemment, avec tout l'attirail cartographie, le système d'information géographique, géostatistique, statistique avancée, etc. Donc là, qui sont en plus méchants, plus spécifiques. Et puis, évidemment, des outils conceptuels, hein, je vous ai parlé d'analyse spatiale, permettre de remettre toute cette boîte à outils dans des cadres méthodologiques pour servir, on va dire, un projet plus général. Et puis, en l'occurrence, on a aussi des limites. On ne peut pas répondre à tout, et ça, ça fait aussi partie de mon credo. Hein, c'est-à-dire, moi, je recherche l'interdisciplinarité parce qu'en ayant travaillé très fortement ma spécificité de géographe, j'ai justement besoin de gens qui font autre chose. Et ouais, j'ai tendance à dire que je préfère lire de la sociologie que de la géographie. C'est souvent, c'est pour moi plus stimulant. Quoi. Et par ailleurs que ce qui compte autant que les réponses apportées, c'est les questions nouvelles. Donc là, les géographes ont aussi pas mal de choses à apporter, parce que souvent le fait de mettre en espace les phénomènes, ça permet de reposer de nouvelles questions. Voilà, donc j'étais un peu long peut-être, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, donc je suis un petit peu content et j'espère que tout est clair.
Voilà. Merci.